de philosophie. Et nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir de nouveau Éric Amraoui, la star de l'émission cette année avec l'association Le Paria. Bonjour Éric, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour Nathalie et Isabelle.
Alors,
merci pour votre invitation. Bah,
ça nous fait très très plaisir de te retrouver parce que voilà, on a eu un coup de foudre avec ta pensée et ton travail et on tenait à revenir sur ce qu'on a appelé aujourd'hui Bartleby, figure de Bartleby 2. Hein, c'était, voilà, puisqu'il y a eu un 1 et on avait été tellement prolixe hein, dans nos discussions qu'on était un petit peu resté sur nos fins. Petite présentation très très légère, représentation d'Éric Amraoui qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Depuis 2003, maître de conférence en philosophie au CNAM hein, à Paris. Voilà, et puis quelques ouvrages. Tu es un ancien directeur de programme, comme nous, au Collège international de philosophie, de 2001 à 2007, hein, je ne me trompe pas, voilà. Et puis on va citer quelques ouvrages et on renvoie nos auditeurs à Google et à Internet de manière générale parce que tu y es très présent et les gens qui voudront te lire pourront te lire assez facilement sur Internet hein, et connaître un petit peu mieux tes travaux. Alors, quelques ouvrages. Les références descriptives et explicatives des maladies du cœur et des vaisseaux. Hein, donc ça a paru en 1998. Philosophie du progrès en cardiologie, ça paru en 2002. Et la philo sort de la bouche des enfants en 2009. Savoir médical, maladie et philosophie, c'est une co-direction avec Anne-Lise Ray et ça a paru en 2016. Et puis un dernier ouvrage, Le symptôme Bartleby ou le travail réticent, en co-direction avec Éric Dair et Florence Godot. Voilà, qui a paru chez Kimé en 2020. Alors, on va revenir, Isabelle, aujourd'hui, sur ces figures de Bartleby avec Éric Amraoui. Est-ce qu'on pourrait faire, par rapport à la dernière fois, être un tout petit peu plus précis? Moi, j'ai relu, je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'ai relu Bartleby vendredi, à la Bibliothèque nationale, pour ne pas la nommer. Et ça serait peut-être bien de reprendre, de redire à nos éditeurs, à nos auditeurs, ce qu'il en est de cette nouvelle. Comment, qu'est-ce qui s'y dit, hein, si on regarde un petit peu. Alors, si on raconte Bartleby, c'est donc un scribe, un copiste, hein. Voilà, il est. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dès le début, il y a la mention. Donc c'est un avoué qui l'a employé, qui parle de lui, qui parle du mystère Bartleby, de la vie ignorée de Bartleby. Et cette vie ignorée de Bartleby, l'avoué, dès les premières pages, dit eh bien, c'est une perte irréparable pour la littérature. Bon. Bartleby, nous dit l'avoué, c'est donc l'être dont on ne peut rien dire. Alors, pour donner les grandes lignes, et puis Éric et Isabelle vous compléteraient, c'est simplement un peu pour donner une orientation à nos auditeurs. Donc, ça se passe à Wall Street, hein, enfin de, voilà, là où travaille l'avoué qui va embaucher Bartleby. Ce sont des bureaux entourés de murs. Là, je pense qu'on parlera de ton identification, Éric, des murs dans la nouvelle de Bartleby, parce que c'est fondamental. Et puis, Bartleby, voilà, il y a déjà deux copistes qui travaillent pour l'avoué, qui s'appellent Dindono et Pincette, et puis un garçon de bureau qui s'appelle Gingembre. Bon, voilà, ça c'est pour les personnages. Et puis Bartleby, voilà, il est embauché parce qu'il y a des besoins, et on le met dans un petit bureau, près d'une lucarne aveugle, laissant passer une faible lumière, et on lui met un paravent vert, hein, l'avoué lui met un paravent vert, qui sépare Bartleby, mais qui permet en même temps que l'avoué puisse l'interpeller régulièrement sur son travail. Bon. Alors, c'est un copiste extraordinaire, Bartleby. Hein, il est extraordinaire, mais il est mécanique. Hein, ça m'a sauté aux yeux, il est mécanique. Il n'est pas joyeux à l'idée de faire ce travail, mais il le fait très, très bien. Et l'avoué l'appelle un jour à faire une tâche supplémentaire. Et c'est là qu'il répond « J'aimerais mieux pas ». Alors, tout le monde connaît la célèbre formulation, je suppose, en anglais, on la répète. « I would prefer not to hein. ».« J'aimerais mieux pas »,« je préférerais ne pas », ça dépend des traductions. Et on a là, avec Bartleby, et on va en venir là à notre première discussion, à une formulation d'une forme de résistance passive. Alors on va peut-être pas délier complètement cette nouvelle. Et peut-être déjà, moi j'ai envie de te poser une question, Eric, par rapport. Alors là, il faut que nous soyons très très clairs. Nous avons invité Eric Amraoui à propos de ce qu'il a écrit. Voilà, dans son l'article que tu as écrit qui s'appelle Bartleby le scribe entre manifestation paradoxale du courage d'être et don d'une folie. Hein, c'est pour cela qu'on te faisait revenir ici avec nous. Et du coup, dans cet article, Bartleby, le scribe entre manifestation paradoxale du courage d'être et don d'une folie, qui fait donc partie de ce livre qui s'appelle « Le symptôme Bartleby ou le travail réticent », hein, sous la direction d'Éric Dair, Florence Godot et toi-même, Éric. Tu croises dès les premières lignes de ton article le courage de l'humanité, que Bartleby questionne par sa réticence, dont tu vas rappeler que le latin reticentia signifie silence, hein, et dans la reticentia on entend aussi la résistance, si je ne m'abuse. Donc j'aimerais que tu détailles pour nos auditeurs ce paradoxe, en quoi ce qui semble être le repli sur soi de Bartleby est signe du courage pour toi. Puisque là, c'est une des questions que tu travailles en ce moment, hein, la relation du travail et du courage et de la résistance.
Alors, merci pour cette mise en perspective. Je voudrais juste, avant de te répondre, dire que l'ouvrage « Le symptôme Bartleby ou le travail réticent » est le fruit d'une collaboration interdisciplinaire à la rencontre des savoirs et des pratiques d'analyse du travail associant perspectives littéraires, sociologiques, philosophiques, bien sûr, et également les sciences du management. Mmh. Pierre-Yves Gometz, par exemple, y intervient pour définir la figure de Bartleby comme travailleur sans intérêt, au double sens du terme. Mmh. Voilà. Alors ça, c'est le point de départ, celui d'une rencontre interdisciplinaire. Mmh. Donc, pour en venir à la question du courage, de quel courage s'agit-il ? Il peut sembler paradoxal de parler de courage concernant Bartleby perpétuellement confronté à l'expérience de la défaite dans la nouvelle. Alors, après une embellie, je rappelle simplement un fait important qu'on apprend à la fin de la nouvelle, à savoir le fait que Bartleby a d'abord travaillé au service des lettres au rebut de la Poste de Washington.
Ouais, c'est très beau, cette fin.
Et voilà, on ne l'apprend qu'à la fin. Alors, lettres au rebut, en anglais, c'est très proche de la mort. Enfin, il y a l'idée de la mort, des lettres qui n'arrivent jamais à leur destination, à leur destinataire,
oui.
Porteuses de vie.
Tout à fait. Et elles, d'une certaine manière, elles ne sont jamais arrivées pour donner ce de quoi elles étaient porteuses, probablement d'un peu de bien-être, de réconfort. Donc ce sont... En fait, Bartleby travaillait à ce service et il en a été, on pourrait dire, licencié.
C'est ça.
Enfin, voilà, il a été licencié de ce service. Et du coup, la nouvelle se termine là-dessus. C'est-à-dire, cet homme déjà sensible a été sensibilisé par ce travail-là, qui était un travail se confrontant à la défaite de l'humanité, enfin, une sorte d'abandon de l'humanité.
Oui, on peut y voir une figure de la déréliction, effectivement. Alors, on peut le dire comme ça, Bartleby est licencié après avoir été employé des postes et se retrouve à l'état de chômeur avant de d'échouer, entre guillemets, parce que je n'emploie pas ce terme par hasard, dans l'étude de l'avoué.
Oui.
Qui semble, dans un premier temps, voué à redynamiser son destin. Mmh. Il, c'est un employé qui œuvre avec zèle.
Oui, c'est un employé modèle.
Modèle.
Il ne dort presque pas, il ne fait pas de pause, il mange sur son lieu de travail et c'est un excellent copiste. Enfin, voilà. Alors, donc ce paradoxe, pour toi, en quoi ça, ce repli voilà. sur soi est signe de courage ?
Voilà, c'est ça. Alors, j'ai parlé de courage d'être plus que de courage. Courage d'être parce qu'il y a l'idée d'une persévérance dans l'être. Et en écho à ce que dit Paul Tillich dans le courage d'être, justement. Sauf que ce courage d'être s'affirme dans un contexte de négativité. Bartleby est une figure de la négativité dont il va mourir. Une négativité qui va, le conduire à l'épuisement, mais dans un contexte donné, évidemment. Hein, un contexte où tenter de vivre, tenter de persévérer courageusement dans l'être, eh bien, implique tôt ou tard la confrontation à la défaite et voire à la mort. Hein, c'est ça. Donc c'est vraiment cet aspect. Alors j'en profite peut-être pour le mettre mieux en perspective,
oui.
en faisant écho au magnifique essai de notre collègue Byung-Chul Han, La société de la fatigue, où l'auteur montre que Bartleby est l'homme de la société de la discipline. C'est un sujet obéissant. C'est très important pour la suite parce que on va distinguer peu à peu nuancer, réticence, résistance. Dans l'ouvrage, il y a un texte sur la résistance. Bartleby est-il à proprement parler un résistant ? Hein ? Et la résistance étant associée au courage et réciproquement, eh bien, la question est d'importance. Hein ? Alors, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que Bartleby, dans cette société de la discipline et de l'obéissance, ne fait qu'obéir dans un premier temps.
Oui.
Même si, assez rapidement, il marque un pas de côté. Mais ce pas de côté est-il, à proprement parler, dans sa première phase, révolte, résistance ? Hein ? Et a-t-il les moyens de résister, c'est un peu ça. Et peu à peu, les choses vont s'aggraver. Il va, comme le laisse entendre la nouvelle, s'incruster, vouloir rester à demeure, non seulement par zèle, mais après avoir cessé de travailler, il reste là.
Il veut plus partir.
C'est ça.
Il veut rester sur le lieu de travail, qui est aussi son lieu d'habitation, le lieu où se nourrit, le lieu où il dort. Voilà. Et donc, du coup, il est indélogeable.
Et le stratagème auquel recourra son employeur, eh bien, n'est autre que le déménagement, le sien propre.
C'est l'employeur qui doit s'en aller.
Oui. Donc, on pourrait voir la marque d'une défaite tactique de l'employeur qui, déménageant, eh bien, se défausse de la charge de la situation sur le repreneur de l'étude,
oui.
qui, lui, ne prendra pas de gants et livrera Bartleby à la rue.
Oui.
Et où, à partir de là, il échouera à la prison des tombes. Mais ça, on y viendra par la suite.
Donc, alors là, il y a quelque chose de très intéressant avec ce personnage de Bartleby. Je ne sais pas ce que tu en penses, Isabelle, mais on se rend compte dans cette nouvelle qu'en fait, Bartleby, il désarme, hein, par rapport à cette question de la résistance, il désarme la colère de l'avoué, notamment, il provoque une interrogation de l'avoué sur lui-même. Hein, qui interroge le rapport, l'attitude qu'il doit adopter par rapport à Bartleby. Donc voilà, il y a quelque chose d'une exaspération de la résistance passive, hein, que provoque Bartleby, cette exaspération qui fait que les gens en sont complètement déstabilisés, notamment l'avoué qui ne sait plus quoi faire et qui se heurte finalement, alors là c'est peut-être la question du langage, qui se heurte à ce langage propre à Bartleby qui vient défaire le langage rationnel, le langage du raisonnable, le langage de ce qui est clairement compréhensible.
Oui, oui. Et de fait, hein, je vous entends parler, Eric et Nathalie, et dans cette attitude de Bartleby et sa résistance passive, j'y vois quelque chose de l'animal, c'est-à-dire d'une question qui s'ouvre à autrui à partir d'une animalité de l'être de Bartleby. Ne serait-ce qu'à se référer au symbole de l'agneau dans notre tradition et au livre d'Isaïe dans la Bible, il est dit que de fait le serviteur, celui qui obéit, est tel un agneau. Et cet agneau qui renvoie au silence n'est pas un silence du mutisme, mais un silence qui ouvre l'interrogation, le dialogue, l'étonnement philosophique. Et ça m'a beaucoup frappé, ça, dans la nouvelle d'Herman Melville. C'est-à-dire que c'est comme une sorte de ligne directrice dans le creux du texte. Le questionnement par une présence silencieuse qui nous renvoie à ce silence animal.
Oui, oui, mais de manière irruptive, comme le dit le poète Frank Smith, donc dans l'ouvrage, qui a bien voulu contribuer à l'ouvrage, une irruption de présence. Un travail, une formule opérant la langue.
Ouais. Hein.
Et justement, un cri, le poète emploie cette même fait écho à cette même idée de cri. Un cri qui dit non à non, dit le Frank Smith. Donc ce n'est pas, je préfère ne pas, ce n'est pas dire non, mais c'est dire non à non, parce que ce n'est pas une pure négation.
Oui, oui, tout à fait, absolument.
Et là, on rejoint ce que tu disais, Nathalie, eh bien, naît une atmosphère de déstabilisation.
Complètement, absolument.
Oui.
Alors, ce qui est intéressant par rapport à cette figure de Bartleby, et pour revenir à ton article, dans ton texte, le courage, tu vas l'articuler avec la nécessité de soigner le travail, compris comme, le travail chez toi, compris comme une activité vitale, consciente et libre, c'est-à-dire pour soi. Comment, à travers le personnage de Bartleby, pour nos auditeurs, tu vas donc essayer de penser hein, cette idée du courage de Bartleby avec la question du soin et du travail. Comment ça s'articule dans ta pensée, la figure de Bartleby ?
Oui, c'est-à-dire que Bartleby est confronté à l'invivable, en fait, à terme. Et quand on ne peut vivre, on ne peut travailler. Et il révèle la panne fondamentale du système, l'impasse à laquelle il nous condamne. Et en ce sens, il n'a d'autre choix que de faire l'expérience, que de tenter l'aventure de l'exploration alors, d'autres mondes qui ne sont pas des mondes de fuite, mais des mondes de dialogue authentique, notamment avec le mur aveugle, mais en anglais on dit plutôt le mur mort, dead wall.
D'accord. Alors, moi j'ai envie de faire entendre quelques passages de ton article à nos auditeurs, et notamment, je suis à la page 77 de ton article, et je voudrais lire donc cet extrait, Bartleby, je rappelle le titre, Bartleby le scribe entre manifestations paradoxales du courage d'être et don d'une folie. Et c'est un petit sous-titre qui s'appelle chez toi, enfin que tu as appelé « Le destin d'une mort intermédiaire ». Et ça fait partie de cette thématique, le refus de travailler sans vivre. Alors je lis. Les indices symboliques de telles atteintes sont présents dans le corps du texte, à son début et à sa fin principalement, sous la forme de l'emmurement polymorphe de Bartleby. Cela n'est d'ailleurs pas sans offrir des ressources pour commuer l'enfermement en occasion d'invention de nouvelles formes de refus de travailler sans vivre, au sens où l'entendra Lawrence quelques décennies plus tard. Donc là, tu cites Lawrence dans ton article. Le travail, c'est la vie, et la vie se vit dans le travail, à moins d'être un esclave salarié. Pendant qu'il travaille, l'esclave salarié passe à côté de la vie. Les hommes devraient refuser de travailler sans vivre. Les hommes devraient exiger de travailler pour eux-mêmes, d'eux-mêmes, de mettre leur vie dans le travail. Fin de la citation de Lawrence. Et je me permets là de reprendre ta note de bas de page numéro 1, que je trouve très très intéressante. Donc tu cites Lawrence David Herbert, « Être vivant », voilà, là, je passe la traduction, mais c'est édition du Rocher. Et tu dis, plus loin, l'auteur ajoute, donc D.H. Lawrence, « La seule raison de vivre est d'être pleinement vivant. Or, il est impossible d'être pleinement vivant si l'on est écrasé par une peur secrète et taraudé par cette menace. Aie de l'argent, sinon tu mangeras de la poussière. Le monde est en attente d'un grand mouvement de générosité nouvelle ou bien d'une déferlante de mort. Il faut changer le système et donner à tous les moyens de vivre, ou bien se résoudre à voir mourir les hommes, puis à mourir soi-même. Hein ? Donc, alors je finis la lecture de ce petit passage de ton article. Hein. La réticence de Bartleby, poursuis-tu, à travailler sans vivre et en sachant se montrer raisonnable, en ne faisant qu'obéir, produit un effet suavement cadavérique, une figuration enchanteresse de la mort aux yeux de l'avoué. À la lumière de l'apport de la phénoménologie existentielle, cette réticence peut également être interprétée comme la conséquence de la réalité d'une contradiction entre force productive et rapport de production. Là, tu cites Lang et Cooper, hein, Raison et violence. Cette dernière contradiction est celle qui existe entre le sujet et son objectivation à travers le travail qu'il fournit, au point que celui-ci lui apparaisse en tant que force ennemie et non plus comme besoin éprouvé par un homme concret, en lui-même étranger à tout système, où une idée n'est vraie que dans la mesure où l'on peut la réduire à un résultat. Bartleby révèle ainsi le nécessaire questionnement de toute existence singulière du point de vue de la quête de la satisfaction liée au fait de se sentir vivant, plutôt qu'en se fondant sur la recherche d'une sécurité ontologique, figure trompeuse du courage d'être, relevant du souci de la préservation de soi que symbolisent les remparts dont nous recherchons la protection plus que les murs qui, tout en bornant notre champ de vision, deviennent les interlocuteurs privilégiés de notre imagination. Alors, très beau passage, j'aimerais que tu reviennes sur cette attitude d'une mort raisonnable au sens où elle est raisonnée et qu'elle résiste à la réalité d'une contradiction entre force productive et rapport de production. Hein, là, c'est pour citer Lang et Cooper dans Raison et violence. Est-ce que tu peux détailler cette magnifique incise hein, du rapport au travail dans la figure de Bartleby?
Oui, il s'agit... Alors là, tu as mis l'accent sur le fond de la du problème. Préférer vivre à la quête d'une sécurité ontologique. Mmh. Cette quête qui nous conduit à des compromissions avec, justement, le jeu des forces productives. Ça, chez Marx, c'est le travail abstrait.
Oui, oui, tout à fait. Hein,
c'est au risque d'étouffer la force, les forces productives, le travail vivant, etc. C'est vraiment, je pense, ce qu'aperçoit Bartleby, au fond. Et face à une mort, il œuvre face à une mort qui se donne à voir différemment.
Oui, plutôt que la mort prédéfinie du système capitaliste, pourrait-on dire, il va choisir sa mort. Est-ce que, mais c'est délicat de parler de choix avec Bartleby. Mais
en tout cas, il tente l'aventure susceptible peut-être de lui permettre d'échapper à cette mort, au risque de la folie.
Oui.
Mais d'une folie dont il nous fait en même temps le cadeau. Parce que il est un peu un avant-gardiste, il est aux avant-postes. Et ce qu'il découvre là, au risque de la brisure de son cœur, schizophrénie, c'est le cœur brisé, c'est un échouage en fait, c'est un échoué de la société, eh bien c'est un message que nous pouvons accueillir en tant que cadeau. C'est pour ça que la deuxième partie du titre de mon chapitre d'ouvrage, c'est le don d'une folie.
Oui.
Et le courage d'être, une expérience paradoxale du courage d'être, parce que un courage perpétuellement secoué par les tempêtes de la négativité, et en même temps, expérience permettant le jaillissement, enfin, l'éclosion plus exactement, du don d'une folie.
Et ce que tu appelles folie chez Bartleby, puisqu'on revient sur cette question de la résistance, parce qu'on est aussi dans des questions qui touchent aussi bien aux politiques qu'à l'esthétique. Bon. Mais pour revenir à cette question de la folie, en t'entendant parler, alors la folie de Bartleby, ce qu'il nous montre, ce qu'il porte, c'est une folie de l'échappement. Enfin, je veux dire, il échappe plus qu'il ne résiste. Ou en tout cas, s'il résiste, c'est au sens de la résistance physique et pas au sens de la résistance du sujet pensant. Enfin, c'est quoi cette folie de Bartleby dans cette thématique problématique de la résistance?
Alors, il échappe sans esquiver.
Mm-hmm.
Et en même temps,
oui.
Eh bien, le réel le rattrape d'une certaine façon. Il ne triche pas.
Oui.
Et cette folie, c'est plutôt la révélation, au sens d'une apocalypse, de notre propre raison du monde. Sa folie révèle la folie du monde, en fait. Et sa folie n'est pas si démente que cela. Elle n'est pas démence. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Oui. Alors, là, en t'entendant parler... je ne sais pas si Isabelle, tu pourras rebondir, mais il faut quand même souligner que Bartleby est un travailleur hors pair. Enfin, tu le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un d'absolument intègre, dévoué à son travail. Et tout le portrait des personnages de début de la nouvelle, qui eux, au contraire, ses collègues d'Indono, Pincette et Gingembre, sont des gens qui sont des tirs au flanc. Et ces tirs au flanc-là, finalement, l'avoué, il faut quand même, c'est bien, on a ri à l'antenne, c'est génial, parce que en fait Bartleby, c'est très drôle, c'est ce qu'on se disait Eric en venant ici à la radio, c'est très drôle, et il faut que nos auditeurs aillent relire cette nouvelle d'Herman Melville, parce que moi j'ai ri à la Bibliothèque Nationale, on m'a entendu rire dans le silence. Bon, mais quand on voit Dindono, Pincette et Gingembre qui tous à des degrés différents ont leur moment de travail dans la journée et le reste du temps ne font rien, et c'est finalement Bartleby qui va subir une forme d'injustice, enfin de ce système du travail qui paradoxalement peut laisser tranquille des gens qui sont des tirs au flanc et des fainéants, mais les vrais travailleurs par contre, eux, on les embête. Il y a quelque chose comme ça dans le début de présentation de cette insistance de la part d'Herman Melville avec les personnages. Parce que Bartleby travaille. Il travaille pleinement.
Et en ce sens, on pourrait opposer une, entre guillemets, sagesse du dilettantisme à une folie du zèle, en tout cas de l'implication qui conduit à l'épuisement.
Oui, tout à fait. Absolument. Isabelle.
Oui, alors je reviendrai sur le terme de folie tel que vous l'employez, Eric, et la notion d'excès ou le concept philosophique d'excès auquel vous rattachez cette folie. Et si Bartleby nous donne une figure de la folie comme une forme paradigmatique, il y a au fond, pour moi, une vraie réflexion que vous menez dans cet article entre une négation qui n'est pas, comme vous le disiez de façon très juste, hein, une négativité comme on pourrait l'entendre, mais un excès, je dirais. Quelque chose qui excède une réalité, un langage et une modalité de rapport au monde qui serait une modalité routinière, en fait, hein, des tirs au flanc comme Gingembre et les autres personnages de la nouvelle. Mais vous voyez, ma question, c'est plus de me demander, au fond, dans quelle mesure cette présentation excessive de Bartholdi et cette interrogation qu'il donne à être aux yeux des autres est au fond une présence qui excède les fausses présences du monde, au fond.
Et c'est insupportable.
Et c'est insupportable parce qu'il renvoie aux autres, en fait, qu'ils ne sont pas présents, qu'ils ne sont pas là.
Oui, qu'ils sont de faux vivants dans un état de mort intermédiaire.
Oui, oui.
Justement, justement.
Alors, avant de faire une petite pause musicale, est-ce que, alors, qu'est-ce que c'est que ce « travailler sans vivre » de Bartholdi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est l'impossibilité pour lui de travailler sans vivre, c'est-à-dire que vivre ne se sépare pas du travail. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus ?
Oui, parce que le travail tel que le conçoit, par exemple, un contemporain de Melville, Ruskin, c'est une activité de vie, c'est une production de vie, c'est indissociable. Or là, le mot « aliénation » n'apparaît pas, sauf erreur de ma part. Mais nous sommes dans le contexte, dans la configuration d'une séparation de soi avec soi.
Tout à fait. On l'avait évoqué dans la première émission avec toi, effectivement. Donc,
c'est vrai que, en fait, en repensant à ces personnages des tirs au flanc et des fonctionnaires qui entourent Bartholdi, je ne pouvais pas ne pas repenser à ce poème d'Arthur Rimbaud, « Les assis », qui est tout à fait pour moi le lien entre ces personnages à côté de Bartholdi et par exemple Gingembre, hein, enfin, noir de loupe, grêlé, les yeux cerclés de bagues vertes, leurs doigts boulus, crispés à leur fémur. Hein, c'est tous ces vers de Rimbaud qui décrivent au fond des coquilles vides, quoi, des êtres qui sont là sans y être.
Alors que Bartholdi est un esthète. Finalement, c'est un esthète. Un esthète du travail.
Oui, oui.
Et un esthète de la vie.
Oui, parce que le sensible est constamment présent, en dépit de son apparence, enfin, de son émaciation, de son anorexie, de sa catatonie, de son asthénie.
Oui.
C'est un autre paradoxe.
Tout à fait. On y reviendra peut-être dans la seconde partie de l'émission avec la question des murs. Et là, on va écouter. Voilà, et je tiens à remercier le technicien Matteo Pelaez, qui est là aujourd'hui avec nous et qui va donc nous passer un extrait du grandissime François Béranger, Profiter du temps.
Je voudrais, quoi qu'il arrive, profiter du temps qui me reste à vivre, tant de temps, si peu de temps, le temps qui tisse sa trame, le temps qui file sa chaîne, le temps qui est si pesant, le temps qui n'existe pas. Je passe mon temps à ne rien faire, j'en ai plus pour travailler, je surveille le bananier, les bananes poussent à l'envers. Je me mets donc la tête en bas pour voir la chose à l'endroit. C'est pas bon pour l'attention, mais ça fait jaser les cons. Prendre son pied dans la moquette, partir en vol plané. vole planer dans mes synapses, dans mes univers virtuels, dans mes giganeurones, aussi vite que la lumière, dans l'infini des mémoires. Un matin l'angoisse te poisse, tu n'es plus immortel, tu jettes un œil sur ton compte, il est pas loin du zéro. Redevenir le héros du quotidien qui file, redécouvrir les gens, les objets et les jours. Comme ton caoutchouc, ton sans début ni fin. Interminable quand on s'ennuie, impalpable quand on jouit de la moindre seconde.
Voilà, nous sommes de retour. Veuillez nous excuser, monsieur François Béranger, où que vous soyez, de vous avoir coupé le sifflet. Voilà, c'était Profiter du temps, François Béranger, que j'ai découvert, moi, en écoutant San Severino, puisque si vous aimez San Severino, il a fait souvent des reprises de François Béranger. Il l'a d'ailleurs invité à faire un concert à Paris, quelque temps avant que ne meure ce grand homme. Et là, je regardais sur mon téléphone, voilà, il est mort en 2003, et l'album s'appelle donc François Béranger, Profiter du temps. C'est l'album de 2002 sur Futur Acoustique, Harmonia Mundi Distribution. Voilà, Profiter du temps. Revenons peut-être un petit peu sur la question, le travail du voir, hein, par rapport à ton article, Eric, face notamment au mur aveugle. Alors tu identifies dans ton article, et là je me permets de tourner les pages et les auditeurs vont entendre, voilà, les pages qui tournent, tu identifies dans ton article quatre types de murs. Je me permets de relire pour que les auditeurs nous suivent bien. Donc c'est à la page 81 de ton article, ça s'appelle « Le dialogue avec le mur aveugle ». Quatre principaux types de murs se trouvent successivement évoqués dans Bartleby le scribe. Le mur rue, Wall Street. Le mur cage, la paroi blanche de l'intérieur d'une spacieuse cage vitrée qui parcourait l'édifice, abritant les premiers bureaux de l'employeur de Bartleby de haut en bas, que l'avoué vouera à devenir le tombeau de son employé. Le mur ombre, présage d'ombre plus sombre dans le futur. Enfin, le mur prison. Nous pourrions ajouter le mur que semblent parfois former les yeux à l'aspect terne et vitreux de Bartleby, abandonnant leur vague placidité antérieure lorsqu'il répond sans répondre aux questions de l'avoué. Alors là, c'est très intéressant quand on regarde dans ton article et quand on poursuit aussi page 84-85, hein, précisément le travail du voir, hein, que tu évoques. Et là, je me permets de lire, et Isabelle, tu prends la parole, hein, si tu as des choses à préciser. Sur cette lecture que je fais de nouveau, page 84 de ton article, le mur aveugle suscite en Bartleby un travail, y compris sur le mode de la rêverie méditative, qui rend possible la connaissance sensible de ce qu'il voit, au sens où l'entendra plus tard Giacometti. « Je ne sais ce que je vois, là tu cites, qu'en travaillant. Je ne sais ce que je vois qu'en travaillant. Hein, » Tu cites Alberto Giacometti, pardon, écrit « Entretien avec Yvon Talandier » aux éditions Hermann en 2007. « Contempler le mur, continues-tu, le mur sombre qui fait face à sa fenêtre, est ainsi pour Bartleby le moyen et l'occasion de s'approcher du réel, d'en sonder la sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part. » Alors, est-ce que tu pourrais revenir sur cette question du travail du voir chez Bartleby par rapport à ce mur aveugle ? Et d'abord, peut-être une question toute générale. Que sont les murs pour Bartleby ? C'est quoi cette figure du mur et quel type de vision ça implique ? Est-ce qu'on est de l'ordre d'une vision contemplative, notamment par rapport au mur aveugle ?
Alors, de prime abord, la vision semble contemplative. Elle est plutôt exploratoire, je l'aperçois davantage comme ça. Mmh. Et en évoquant le courant de la psychothérapie existentielle, je cite Lange disant, comparant certaines formes de folie à une capacité d'exploration. Il compare les schizophrènes, certains schizophrènes, à des explorateurs de la Renaissance. Mmh. En fait, c'est la rencontre avec l'inconnu dans le connu que fait, à mes yeux, Bartleby.
À travers son obstination à regarder les murs.
Oui.
Pour les transpercer ?
Alors, pour les... je pense pour les habiter.
Pour habiter les murs.
C'est une autre définition du travail.
Oui.
C'est habiter le réel.
Tout à fait, l'espace autrement.
Oui, au point de faire partie des murs.
Oui,
oui.
C'est ça. Alors d'aucuns pourront parler d'une vision un peu mystique du travail, chamanique, se téléporter, téléporter ses propres atomes dans la matière, dans ceux de la matière. Mais je pense qu'il s'agit d'une expérience que nous faisons toutes et tous à un moment donné de notre vie de façon plus ou moins intense. Travailler, c'est exister dans le monde avec, dans certaines habitudes. Et donc, habitude, habiter le monde. Je le verrais sous cet angle.
Oui.
Habiter le monde en Bartleby.
Oui.
Comme on pourrait habiter le monde en poète.
Oui.
De la même manière, dans ce rapport d'intrication entre matière et esprit au travail, on pourrait penser à toute cette mystique du travail que développe Simone Weil dans La pesanteur et la grâce. Il y a une pesanteur du mur et une grâce dans l'habitation du mur. Une grâce qui se renouvelle sans cesse puisqu'il ne s'agit pas d'un habitat, il s'agit d'une habitation, avec ce suffixe qui dit un mouvement, une dynamique interne qui renvoie ainsi cette figure du Bartleby contemporain à une présence, je reprends ce terme, dans les murs qui ne fassent pas mur.
Oui, je trouve que la convocation de la référence à Simone Weil est très très juste. Oui, l'expérience que fait Bartleby est celle d'une grâce, sans doute, sans doute. Mais on pourrait aussi, et ce n'est pas incompatible, y voir un geste de retour à une unité perdue par justement les atteintes du système capitaliste à la psyché, l'épuisement en l'occurrence. La schizophrénie, c'est une sorte de dissociation de l'être et un retour à l'unité. Et on pourrait le penser en termes d'écologie humaine. C'est un rapport qui associe l'humain et la matière, et c'est un dialogue de type écologique, me semble-t-il, au sens philosophique.
Oui, et d'une certaine manière, tout en restant sensible, Bartleby, en regardant ses murs, devient lui-même un mur. C'est-à-dire, il regarde les murs parce qu'il est imprenable par ceux qui ne comprennent pas ce qu'il est en train de dire et ce qui l'oppose par son « I would prefer not to ». Donc il y a cette...
Et d'où la distinction nécessaire entre mur et rempart.
Oui, c'est important. Et de nouveau, avec Simone Weil, je cherchais la référence à l'instant, dans La pesanteur et la grâce, quand elle dit que le monde est un texte à plusieurs significations et l'on passe d'une signification à une autre par un travail. Donc un processus, un process de travail, pour reprendre les analyses de Marx, un travail où le corps a toujours part, au fond. Comme lorsqu'on apprend l'alphabet d'une langue étrangère. Cet alphabet doit rentrer dans la main à force de tracer les lettres. En dehors de cela, tout changement dans la manière de penser, complètement illusoire. Donc c'est très proche de la pensée de Marx, parce que tout ce qui est abstrait est une absence profonde, oui. Alors que l'investissement au sens d'une présence est le courage de s'engager, le courage de s'engager dans l'incorporation.
Oui, et courage qui, comme le montre Simone Veil dans l'Iliade ou le poème de la force, voilà. S'oppose à la pétrification.
Complètement.
Autrement dit, si je suis le fil de vos raisonnements respectifs, si Bartleby devient mûr, ce mûr n'est pas pétrification,
non,
justement, il est vie.
Oui.
Enfin, c'est pas incompatible.
Non, et alors dans cette figure du mûr aussi, pourrait-on y voir une fin de non-recevoir à la subjectivité consciente. Enfin, il y a là aussi voir les murs, c'est aussi ne pas voir cette subjectivité consciente qui est toujours en train de demander des comptes à travers la figure de l'avoué, à travers les réprimandes de ses collègues qui trouvent complètement incroyable la manière de répondre de Bartleby. Donc il y a aussi le mur, c'est une forme de d'être autrement au monde que par ce qui est censé définir l'homme occidental, en tout cas la subjectivité consciente.
Oui.
Isabelle.
J'écoute avec attention et je me dis effectivement que dans cette perte, je parlerai d'une perte volontiers ici, de l'affirmation d'une tradition occidentale de maîtrise, de compréhension, de cohérence. Il y a profondément dans la nouvelle d'Herman Melville, quand on la relit, une interrogation sur le sens de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Et dans cette manière d'habiter les murs, Dans le silence de l'animal dont on parlait tout à l'heure, cette passivité, il y a quelque chose d'essentiel, mais je vous laisse parler, Eric.
Non, alors justement, qui parle de vérité parle aussi d'un rapport de l'esprit à l'ambiguïté du réel.
Voilà.
Et le mur est une réalité ambiguë. Là, on vient d'en décrire la dimension vitale, telle que investie et vécue par Bartleby. Mais à la fin de la nouvelle, Bartleby meurt entre les murs de la prison des tombes. Donc cet aspect de l'ambiguïté qu'il ne faut pas réduire, et ce qui me permet aussi de faire écho à certaines remarques qui m'ont été faites quand je parlais de la nouvelle de Melville devant des publics de cliniciens, d'analystes du travail, en me disant, attention, la folie, elle a peut-être des dimensions créatrices, mais elle est destructrice. Moi, je côtoie des fous tous les jours et je ne me risquerai pas à poétiser la folie. Mais justement, autre définition du courage d'être, c'est une capacité et peut-être une force surhumaine qui passe inaperçue chez Bartleby à soutenir cette ambiguïté.
Oui, à se soutenir lui-même, enfin vraiment à se poser, à être au monde, à habiter ce monde autrement qu'il n'est habité par ses collègues, par l'avoué.
C'est ça. C'est ça. Et c'est une puissance de vie, c'est une manifestation qui peut sembler paradoxale si on lit la nouvelle, puisque tout échoue, tout va vers la mort. Enfin, et en même temps, peut-être que notre mur à nous, c'est de voir l'obscurité murale de sens de la nouvelle, essayer de sonder cette obscurité. La nouvelle est cristalline et obscure, je crois que c'est Deleuze qui le dit, la nouvelle de Melville. Eh bien, notre réel, c'est ça. Et peut-être que notre effort de pensée, qui est un effort de vie, à partir de la lecture d'un tel texte, serait de nous porter vers l'expérience de ce courage, justement.
Un courage que l'on pourrait alors qualifier... de la tension. Deux sens du terme d'ailleurs, enfin, pas au deux sens du terme, mais de la tension en deux mots et de la tension au sens bellien en un seul mot. C'est-à-dire il y a une tension paradoxale chez Bartleby qu'il parvient à tenir dans, dans la discrétion, vous l'avez rappelé. Hein, c'est-à-dire quelque chose qui passe inaperçu, je vous cite. De fait, c'est une présence dans le monde qui n'est pas du monde de gingembre et des autres, précisément parce que cette présence avance masquée. On pourrait dire l'arvatus prodeo, au fond, aussi. Parce que, de fait, ce qu'il porte est invisible. Et l'attention de veiller, donc de cette vigile de Bartleby, à cette force vitale en lui, à cette source qu'il ne veut pas laisser tarir, rapporte un certain type de folie tout à fait originale que vous allez démontrer, qui n'a effectivement rien à voir avec la folie au sens d'une destruction. Et justement, quand vous en parliez, je repensais à ce très beau documentaire qui était sorti au cinéma, puis ils en ont fait un livre, « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés », reprenant le fameux vers de La Fontaine dans Les animaux malades de la peste. Quelle est notre peste ou notre lèpre aujourd'hui, sinon effectivement l'absence à nous-mêmes, quoi.
Voilà, dans la brume du culte de la positivité, justement.
Voilà. Alors, peut-être un dernier point de ton article, vraiment, qui est un article très riche. J'invite de manière générale, je vais redonner, Eric, le titre de l'ouvrage dans lequel a paru ton article. Voilà, le symptôme Bartleby ou le travail réticent. Donc, je rappelle, sous ta direction et celle d'Éric Dere et de Florence Godot aux éditions Quimet. Et là, précisément aujourd'hui, on parle autour, à partir de ton article, Bartleby le scribe, je rappelle, entre manifestation paradoxale du courage d'être et don d'une folie. Moi, j'avais été vraiment saisie aussi sur cette question aux alentours des pages 94-96 de la sociabilité impossible que tu relèves. À partir de Bartleby, je me permets de lire encore un extrait, page 94. Du point de vue de l'exploration des ressorts de la sociabilité, la nouvelle de Melville offre une contre-épreuve à l'analyse kantienne de l'entrée en société sur fond d'insociabilité. La réticence bartlebienne n'est en effet pas douée du même pouvoir paradoxal que les passions ou qualités d'insociabilité, ambition, soif de domination et cupidité, qui, en se heurtant à la résistance ou à l'incompréhension d'autrui, contraignent l'individu à l'affirmation de soi au moyen du perfectionnement de ses talents en le jetant dans le travail. Son ressort est celui de l'élan brisé d'une solidarité qui ne verra jamais le jour entre Bartleby et l'avouer. Donc il y a ce premier point que tu poses. Voilà, Bartleby, c'est absolument pas la figure de la sociabilité impossible, de l'ambition qui ferait société, mais c'est davantage, et là je passe à la page 96 de ton article, la question d'un exil intérieur. Je me permets de lire. Donc ce petit sous-titre, à l'exil intérieur. Exilé de la scène du monde, apparaissant de plus en plus étrange aux yeux de ses collègues de travail et à ceux de l'avoué, Bartleby devient peu à peu un étranger, un homme d'ailleurs. De cet ailleurs, la lumière peine à se faire jour à travers les fissures des esprits fermés qui l'entourent, à la manière des murs qui nous séparent de la vie et de tout ce qui la concerne, relevant de la production immatérielle de la pensée. Or, Bartleby, jugé homme privé d'affect, absent, être de nulle part, ayant perdu le sens des axiomes de la quotidienneté, a-t-il jamais fait autre chose que de se tourner vers la pensée et l'humanité préférentielle qui en est un fruit ? Donc là, il y a des pages absolument splendides, et malheureusement l'émission va bientôt toucher à sa fin, mais voilà, il y a aussi toute la fin de ton article où tu montres que finalement, voilà, ce n'est pas la jolie page 99. Vous m'excusez, mais là, c'est vraiment des passages très forts de ton article. Ce n'est pas d'une folie dont plusieurs indices attestent qu'elle n'est pas un pur enfermement que meurt Bartleby, mais du fait de ne pouvoir être entendu et de ne l'avoir pas été. Avant d'être individuel, sa mort est de nature sociale. Alors là, magnifique, moi j'avais vraiment été...
Oui, et comment ne pas penser, Nathalie, hein, et Eric, à ce très beau texte d'Antonin Artaud.
Tout à fait.
Van Gogh, le suicidé de la société.
Que tu cites dans ton article.
Bien sûr.
Eric, donc, qu'est-ce, finalement, c'est Bartleby, c'est, il n'a pas été entendu, et ce qu'il porte comme... alors comment on pourrait dire, comme forme de résistance, dont on a dit que c'était un échappement aussi, hein, et une recherche. Hein. C'est finalement c'est ce qu'il montre et ce qui dérange tant ses collègues, c'est cet exil intérieur qui est sa force finalement et incompréhensible aux yeux des autres.
Mais peut-être dérange-t-il parce qu'il est imprenable en cette cellule intérieure,
insaisissable.
Oui.
Et là, il meurt. Comment dire, au pied du mur de la prison des tombes, certes, mais qui symbolise peut-être celui de la lâcheté.
Mmh.
La lâcheté qui est le tissu des raisons du monde et qui condamne quiconque tente de vivre en lui à une presque mort. Et là, je voudrais juste citer quelques lignes de mon collègue et ami Éric Dair, co-directeur de l'ouvrage.
Bien sûr.
De Bartleby presque mort, de ce presque qui le caractérise au bord de son nom, ressort alors non pas une hésitation, mais l'équilibre intermédiaire de l'âme. L'âme pleinement vivante comme point de contemplation et de concentration, et l'âme comme source de vie entre bios et zoé, une forme de prudence animale et une sagesse de la réticence, place Bartleby in fine dans l'empyré souverain des rois et des conseillers où n'accède pas le diable avoué.
Merci, très belle, très très belle citation. Tu peux rappeler le titre?
C'est à la page 44,
oui.
Et le chapitre d'ouvrage d'Éric Dair s'intitule « Travail, réticence, sagesse, poétique » du débaptême chez Melville.
Voilà, très beau. Donc dans cet ouvrage dont je rappelle le titre, hein, Le symptôme Bartleby ou le travail réticent, donc sous la direction d'Éric Dair, Florence Godot et Éric Amraoui.
Et voilà. Je me permettrai de dire deux, trois mots en écho à ce que vous venez de lire, Éric, pour terminer avec Simone Veil et La pesanteur et la grâce. Les travailleurs ont besoin de poésie plus que de pain. Besoin que leur vie soit une poésie, besoin d'une lumière d'éternité.
C'est très beau. Merci beaucoup, Éric Amraoui, d'être venu aujourd'hui à Radio Alique, philosophie au présent.
Merci à vous.
À très bientôt pour de prochaines aventures philosophiques, esthétiques, interdisciplinaires. J'espère qu'on aura le plaisir de te revoir l'année prochaine. Voilà.
Oui, j'espère aussi.
Merci beaucoup, Isabelle.
Merci, Nathalie.
Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis. Et merci beaucoup à Matteo Pelaez, technicien aujourd'hui, qui a assuré. Grave.
Merci, Mathéo.
Merci, très bonne journée à tous nos auditeurs. Merci beaucoup.